Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Qu'est-ce qui se passe dans le monde des affaires en RDC? La température économique du pays avec toute l'équipe de l'émission à travers des reportages, des directs et des interviews. Jean-Claude Tiala est à la mise en onde et Berryl Chaka, vous êtes là pour les infos.
Les informations nationales et internationales, Jocelyne. Je vous signale que nous aurons au bout du fil à partir de la province orientale, Jean-Paul Bassila. Il nous parlera de la situation qui prévaut au poste douanier de Harou.
Et ça sera dans plus ou moins 3 minutes. Le commerce entre Ngandanjika au Kasaï oriental et le Katanga via Balouba Chankadi est en souffrance. Le bac qui relie ces deux points a coulé. C'est le bac de Mpata. La FEC Kasaï oriental demande au gouvernement provincial de réhabiliter cette voie vu son importance économique. C'est le reportage que nous propose dans la seconde partie de cette émission Emmanuel Elamegi. Le Premier ministre a publié hier le décret relatif aux mesures transitoires sur la transformation des entreprises publiques.
Au total, il y a 20 entreprises publiques, Jocelyne, qui vont se muer en société commerciale, 5 en service public et 6 autres entreprises publiques sont carrément dissoutes. Parmi les entreprises publiques qui deviendront des sociétés commerciales, il y a la Gécamines et l'Okimu. Au nombre de celles transformées en service public, on note le CEEC et la Renapi. Et quant aux entreprises dissoutes, il y a notamment le complexe sucrier de l'Otokila et l'Obema. L'objectif, selon le gouvernement, est de doter le pays des entreprises performante.
Conclusion d'un nouvel accord RDC Fonds monétaire international, la décision du FMI attendue devra être connue aujourd'hui.
Selon le potentiel, les discussions d'hier se sont poursuivies jusque très tard dans la soirée. Le dernier point d'achoppement, la source de financement de 40 milliards de dollars du plan de trésorerie 2009 pour les dépenses publiques. Cette somme devrait être allouée à la Banque centrale au titre de subvention d'équilibre par le gouvernement. Mais ce dernier s'était opposé, reprochant à la Banque centrale de ne fournir aucun effort pour éponger son déficit chronique. Pour s'assurer que le plan de trésorerie serait respecté, cette institution de Bretton Woods devrait désigner un délégué à la Banque centrale du Congo pour s'assurer que le gouvernement n'effectue que des dépenses prévues dans le budget jusqu'à atteindre en décembre le point d'achèvement. Une fois convenu, le projet d'accord devra être soumis à la haute hiérarchie du FMI en juin prochain et la RDC pourra voir sa dette réduite de 12 milliards à 3 milliards de dollars.
22 millions de dollars américains, c'est le montant décaissé par la Banque africaine de développement.
Montant destiné à la réhabilitation de près de 455 kilomètres des routes de dessertes agricoles dans la province du Katanga. C'est aussi un marché gagné par le projet de réhabilitation du secteur agricole et rural, la Pressar en sigle, qui exécutera les travaux avec l'appui du PNUD UNOPS. Le lancement de ces travaux est prévu pour le mois de juin prochain et en plus des infrastructures routières, Jocelyne, il faut aussi retenir que le projet prévoit également la construction des marchés modernes, le renforcement de la production agricole et de l'élevage du gros bétail.
La nouvelle économique au bout du fil.
Les opérateurs économiques du territoire d'Harou ont abandonné tout mouvement d'importation de marchandises en provenance des pays asiatiques. Tous ne disposent pas de licence d'importation exigée par le gouvernement comme préalable dans le cadre de ces accords avec l'entreprise Bivac. Cette situation aurait déjà affecté le rendement de l'Office des douanes et accises dans cette partie de la RDC frontalière avec l'Ouganda et le Sud-Soudan. Nous en saurons un peu plus avec vous, Jean-Paul Bassila, vous vous trouvez à Harou, en province orientale. Décrivez-nous un peu les décors que vous avez vécu depuis hier mardi.
Jocelyne, depuis mardi, au poste douanier d'Harou, seuls les camions transportant de l'aide humanitaire affrétée par les programmes alimentaires mondiaux PAM étaient visibles. Et ce mercredi, quelques camions citernes avec du carburant à l'intérieur comme marchandises sont venus s'ajouter. Il faudra retenir que le carburant n'est pas concerné par les marchés de contrôle des marchandises à l'entrée entre Bivac et la RDC. Et à Harou, aucun camion de marchandises importé par les commerçants, notamment des Dubaï et de Hong Kong, n'a été enregistré.
Et Bivac lui-même n'est-il pas présent?
Ceux qui ont déjà eu à rencontrer une représentation de l'entreprise Bivac aux Émirats Arabes Unis, par exemple, Jocelyne, ont tout simplement découragé ceux qui ne l'ont jamais fait. Cela se plaint du fait que le visa des 14 jours qu'ils obtiennent pour aller acheter leurs marchandises à Dubaï, par exemple, n'a jamais été suffisant pour achever toutes les formalités en vue de l'obtention des documents auprès du Bivac. Et il leur faut au minimum un mois de va-et-vient auprès du représentant des bivacs à Dubaï pour obtenir tous les documents nécessaires.
Mais comment font ces opérateurs pour pallier ces problèmes ?
Selon le comité local de la FEC, certains parmi eux avaient déjà commencé à écouler depuis la semaine dernière à partir de l'Ouganda leurs marchandises en provenance des pays asiatiques et vers Kaya, au Sud-Soudan, où il y aurait moins de formalités douanières à remplir. Et d'autres attendent de discuter des vives voix avec l'ADG de l'OFIDA, M. Deo Ruguiza, dont la visite serait envisagée ici à Arou dans les tout prochains jours. D'ailleurs, des sources proches de l'OFIDA l'ont déploré à ses postes un manque à gagner de plus de 30% des recettes générées régulièrement. Et ces postes douaniers ne peuvent désormais compter que sur les carburants ainsi que sur des frais de dédouanement perçus sur les marchandises importées dans le cadre de petites transactions transfrontalières avec l'Ouganda.
Merci beaucoup Jean-Paul Bassila. Je rappelle que vous intervenez de Arou en province orientale. Bonsoir.
Bonsoir Jocelyne.
Info économique en Afrique et à travers le monde. Berry Luchaka.
En international, Berry, le pétrole brut remonte.
Aidé par le dollar, le pétrole a gagné 1 dollar en fin d'échange européen. Le rebond des bourses est une baisse surprise des stocks américains d'essence, nourrissant l'espoir d'une reprise de la consommation pétrolière. Et cela malgré la grippe porcine et le trop plein de réservoirs bruts.
Crise économique, le secteur de luxe plus frappé que prévu.
Les marques de luxe doivent affronter la diminution de fortune personnelle, la pression sur les prix et le ralentissement de la croissance des pays émergents, déclare Romandie.com. La baisse devrait être particulièrement forte sur le continent américain ainsi qu'en Europe et au Japon, des marchés qui, cumulés, représentent 80% des ventes mondiales.
Merci beaucoup Berry Luchaka pour ces informations et Écho d'économie se poursuit. Le bac de Mpata sur la rivière Lubilanji dans le territoire de Ngandajika à 100 km de Mbujimayi a coulé depuis bientôt une semaine. La raison principale de cet accident n'est pas encore connue. Déjà, le commerce entre Ngandajika au Kasaï oriental et le Katanga via Baluba Shankadi est en souffrance. La Fédération des entreprises du Congo Kasaï oriental demande au gouvernement provincial d'accélérer et de réhabiliter cette voie vu son importance économique en province. C'est le reportage que nous propose Emmanuel Elameji Wakabedi.
Écho reportage.
Ces bacs restent une voie d'une grande importance économique pour la cité de Ngandajika et le Kasaï oriental en général. Le bac Mpata permet l'évacuation des produits vivriers de Kabongo, Moba et ailleurs dans le Katanga via Baluba Shankadi vers le centre de consommation dont la ville de Mbujimayi. Jean Kayembe Mutombo, administrateur du territoire de Ngandajika.
C'est un bac qui désenclave le secteur de l'autre côté et permettre à ce qu'on évacue les produits vivriers pour aller jusqu'en Mbujimayi et même ici chez nous. Le territoire de Ngandajika, on appelle toujours le territoire vert, parce que c'est un terrain grainier très important à produire agricole pour notre province. Alors, le bac là relie les secteurs de Baluba Shankadi, donc à la cité de Ngandajika et à la province. Et c'est par ce bac là que transitent tous ceux qui viennent du Katanga, par exemple les territoires de Kabongo et tout ça, même ceux qui viennent de Moba et tout ça, ils transitent toujours par là avec les produits vivriers, les produits agricoles pour venir les écouler sur le terrain, ce qui fait que c'est un territoire agricole. Donc c'est vraiment une route très importante qui nous permet d'approvisionner non seulement la cité de Ngandajika, mais aussi le chef-lieu de la province en produits agricoles.
Les opérateurs économiques membres de la FEC demandent le rétablissement rapide de la situation pour la reprise du commerce sur ces tronçons. Stéphane Kazadimpambou, vice-président provincial de la FEC Kasaï Oriental, lance un appel au gouvernement provincial, surtout avec l'annonce de la saison sèche.
Comme nous tentons la saison sèche, puis au fur et à mesure que chez nous ici, on commençait à vivre par la voie de pédalaire qui nous amenait les histoires par le moyen des vélos. Le pédalaire là traversait cette bac là pour nous amener de la marchandise. Si vous voyez la rareté des produits de première nécessité là, je relance encore l'appel à l'exécutif pour qu'il puisse prendre des dispositions utiles. Nous sommes dans une situation où s'il ne prend pas de garde vraiment, nous n'allons pas bien vivre.
Côté gouvernement provincial, le ministre des Travaux publics et infrastructures confirme confirme que les efforts sont en cours pour remonter le bac jusqu'à son poste, même si cela prendra du temps.
On a déjà repéré là où se trouve le bac. On l'a déjà ramené jusqu'à environ 200 mètres du bac à Kazadi-Moussoko. Et il faut continuer à le tirer jusqu'au niveau d'impact sur l'eau. Même si ça va nous prendre un mois, mais le bac arrivera toujours à impact. Mais comme je vais m'y rendre ce soir, à mon retour, j'aurai des propositions concrètes sur ce qu'il faut réellement faire.
En attendant, l'administrateur du territoire de Ngandajika a instauré la traversée en pirogue, mais qui ne comble pas tous les besoins comme le bac. Emmanuel Elamejoa Kabedi, Mbujmaï, Écho d'économie.
L'entretien de ce soir.
La filière orifère s'installe à Bounia avec l'ouverture des comptoirs d'or. Léonide Moupépélé, ADG du CEEC, est notre invité ce soir. Le CEEC, cet organe censé évaluer et certifier les substances minérales précieuses et semi-précieuses, va-t-il enfin s'installer à Bounia, Léonide Moupépélé?
Le CEEC ne peut s'installer que là où il y a commercialisation organisée des matières précieuses et semi-précieuses. Depuis une semaine, il y a un premier comptoir qui est en train de s'installer à Bounia. Bientôt, il sera opérationnel. Et donc, d'ici une dizaine de jours, nous devrons commencer à nous installer à Bounia. Bounia, pour nous, ça va être la plaque tournante pour notre filière orifère. À l'heure actuelle, le ministre des Mines a déjà agréé une dizaine de comptoirs dans la filière orifère. Et il faut savoir qu'un comptoir peut disposer de 10 bureaux d'achat à travers les territoires nationaux. Avec 10 comptoirs, si chaque comptoir devrait ouvrir 10 bureaux, vous voyez déjà la manière dont nous pouvons occuper l'espace national.
Et donc, avant, il n'y avait pas de comptoir à Bounia?
Il n'y avait pas de comptoir à Bounia. Justement, le problème qui se posait dans la filière orifère, c'est l'insuffisance de comptoirs. Cette insuffisance de comptoirs qui était due au montant trop élevé pour l'ouverture de comptoirs. Il fallait 75 000 $ pour ouvrir un comptoir. Et le ministre des Mines, ensemble avec le ministre des Finances, ont émis un arrêté qui a réduit ces frais-là de façon très sensible. On a carrément divisé par 10. Donc au lieu de 75 000, c'est plutôt 7 500 qu'il faut payer aujourd'hui pour ouvrir un comptoir.
Et est-ce qu'on peut connaître les conséquences de ce manque de comptoir?
Oui, lorsqu'il n'y a pas de comptoir, Jocelyne, ça signifie tout simplement que la production artisanale circule dans des filières frauduleuses. Nous perdons notre production orifère au profit des pays frontaliers. Mm-hmm. Quelle est l'importance de cette fraude? Nous estimons jusqu'à présent, on ne nous a pas encore contredit, que le Congo produit entre 30 et 40 tonnes d'or, ce qui équivaut entre 800 millions et 1 milliard de dollars par an.
Entre ces comptoirs et les artisanaux qui travaillent déjà avec les Lokimo, entre Lokimo et ces artisanaux, où se place le CEEC?
Le CEEC n'est pas un service qui va sur terrain. Le CEEC est présent là où les comptoirs installent leur bureau d'achat.
Des comptoirs à Bounia, alors que les artisanaux travaillent déjà avec Lokimo. Comment voyez-vous les choses et comment voyez-vous d'ailleurs ces partenariats entre Lokimo et artisanaux? Parce qu'il faut dire que ces artisanaux ne sont pas très très contents.
Lokimo, il est propriétaire des concessions. Donc de ce fait, les artisans qui travaillent chez lui sont dans une situation normalement d'illégalité. Parce qu'il s'agit là des concessions industrielles, donc on ne devrait pas accepter qu'il y ait des artisans. Mais maintenant, nous sommes devant une situation de fait. Si aujourd'hui, vous dites plus question de voir les artisanaux travailler dans les concessions au Kimo, vous risquez de provoquer une petite rébellion. Mm-hmm. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de ça.
Léonide Moupépélé, merci d'avoir fait ces déplacements pour le studio de Radio Capi. Je rappelle que vous êtes l'administrateur délégué général du Centre d'évaluation des expertise et des certifications des substances minérales précieuses et semi-précieuses. Et c'est avec vous que nous bouclons cette émission Écho d'économie présentée par Jocelyne Moussaoupondé, réalisée par Berry Luchaka sous la supervision de Nikon Gaka. Bonsoir.